les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli.
Bonjour à tous. Je vous propose ce mois-ci de ne pas du tout discuter de ce qui se passe dans le monde, mais au contraire de parcourir une question plus générale, plus vaste, même si elle est peut-être au cœur de notre réalité. Cette question, elle taraude mon esprit depuis pas mal de temps. Sommes-nous vraiment attachés à la vérité des faits? Sommes-nous encore en capacité de distinguer le vrai du faux? Oui, je sais, vous devez vous dire que je vais parler pour une énième fois de Donald Trump, suit des approximations et des dénis de réalité. Ce serait tentant, mais je vais plutôt prendre un chemin de traverse et m'intéresser aux films de super-héros. Quel est l'intérêt d'admirer les exploits d'individus au pouvoir hors du commun? Bien entendu, personne ne croit réellement aux hommes araignées ou à la kryptonite. Vous allez me dire, certains croient bien à la crypto-monnaie. Mais il arrive régulièrement que des enfants, voire des adolescents attardés, s'y identifient, se projettent dans ces héros qu'on ne peut pas rencontrer dans la vie réelle.
J'étais un mec ordinaire.
Salut toi.
Salut. Mon unique super pouvoir, c'était d'être invisible pour les filles. Les comics disent des conneries. On n'a pas besoin de super pouvoir pour être un super héros.
Laissez-le tranquille, pas tes affaires.
Oh que si. Hé, y a un mec déguisé en super héros qui se bat avec une bande de gars. Qui es-tu?
Je suis Kick-Ass.
Kick-Ass est devenu le dernier phénomène sur Internet.
Oh, c'est génial.
Il se débrouille pas mal du tout.
Il débrouille surtout pour se faire massacrer. Il devrait se faire appeler Kick-Ass à rien.
Il a lancé une vague de super-héros de la vie réelle.
Équipe-toi, ma chérie. On va se faire des méchants.
Tu veux aller combattre le crime?
Voyons ce que tu sais faire.
Ce putain de mec est sorti de nulle part. Il nous a massacrés.
Je veux la tête de cet enfoiré au bout d'un pieu. Je veux envoyer un message à la population. Être un super-héros nuit gravement à la santé.
Alors, on veut jouer?
Qui es-tu?
Je suis Hit Girl. Et lui, c'est Big Daddy.
Qui casse? Red Mist?
Oh, merde, putain, ça fait mal!
Nous sommes tout comme les Grecs qui avaient une mythologie très riche avec des héros courageux, des demi-dieux et des dieux qui intervenaient dans leur vie quotidienne. Le premier grand livre de l'histoire occidentale, l'Iliade, regorge d'histoires abracadabrantes. Et il eut une influence considérable sur tout le peuple qui fonda l'histoire de notre continent, et ce pendant des siècles. Zeus, Achille, Poséidon résonnent encore aujourd'hui, mais ils sont concurrencés par Spider-Man, Superman, Batman et les 4 Fantastiques, les X-Men, etc. Sans évoquer l'univers de Disney qui influence profondément les imaginaires depuis maintenant un siècle. Pourquoi accorder tant de place à des histoires totalement irréalistes? Parce que ce sont des mythes. Notre esprit a autant besoin de rationalité, de logos, que d'irrationalité, du mutos. Logos et mutos, les deux voies du savoir irréconciliables, mais indépassables. Le célèbre Platon, dans ses dialogues, ne cessa de faire des allers-retours entre les deux. Il fut celui qui développa le premier, la critique contre la superstition, au profit de la rationalité dialectique. Mais dans le même temps, il truffa ses échanges entre Socrate et ses adversaires sophistes, de références à des mythes et aux poèmes d'Homère, avec ses héros imaginaires. Peut-on comprendre ces contradictions ? Deux spécialistes en France qui ont abordé cette question. Jean-Pierre Vernon, qui écrivit « Mythes et pensées chez les Grecs » en 1965, et l'historien Paul Venn, qui produisit en 1983 le tout aussi célèbre « Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?». Les deux analysent sous un angle différent la question de notre attachement aux mythes. Et je vous propose d'adapter leurs conclusions à notre monde contemporain, ses croyances, où se mêle une emprise de plus en plus grande de la religion et une adoration pour des récits qui rappellent, à travers les Marvel et les Disney, à la fois la mythologie grecque et l'Ancien Testament. Je vais commencer par Paul Venn, car sa thèse peut nous paraître plus simple, plus claire. Pour l'historien, les mythes sont un ensemble d'histoires qui ont leur propre logique interne. On invente des lieux, des chronologies, des faits. Et c'est ce qui permet à un récit d'avoir la cohérence et l'autorité nécessaires pour une adhésion facilitée. Je m'explique. Si un grec écoutait un récit sur les dieux, il ne se posait pas la question de savoir si c'était vrai ou faux. L'autorité du poète qui récitait l'ode aux dieux suffisait. Il n'avait pas le souci de vérifier expérimentalement ces points, puisque la transmission orale était le mode d'acquisition des connaissances. Ce que veut dire Paul Venn, c'est que la notion de vérité est historique. En d'autres termes, il dépend de l'époque et de la culture. Pour le grec de l'Antiquité, considérer qu'il faille vérifier les dires du poète en les comparant avec des faits véritables n'avait réellement aucun sens, puisque le poète était celui qui savait. Le poète était le maître de la vérité, transmettant de génération en génération, de bouche à oreille, ce qu'on savait. On le croyait parce que personne ne pensait à remettre en doute ce qu'il disait. Peu importe d'ailleurs si cela ne devait jamais se vérifier, puisqu'il parlait de lieux inaccessibles, d'un passé glorieux ou d'une terre si lointaine que personne ne pensait y aller. Prenons un exemple. Lucien de Samosate, au IIe siècle de notre ère, racontait les aventures des habitants sur la Lune, dans un ouvrage intitulé « Histoire véritable ». Bien entendu, nos écoliers, lorsqu'ils le lisent, savent que tout est faux, car aujourd'hui nous savons qu'il n'y a pas de vie sur la Lune. Mais le grec, il y a presque 2000 ans, que voulez-vous que cela lui fasse? Ne nous moquons pas de ceux qui l'écoutaient. Nous avons tendance à lire avec le recul de nos connaissances modernes. Mais les Grecs, puis les Romains, n'en étaient pas là. La question de savoir s'ils y croyaient au sens où nous croyons les scientifiques, n'a pas de sens. C'est la thèse principale de Paul Venn. Mais du coup, aujourd'hui, alors que la science triomphante domine nos esprits, pourquoi encore adhérer à des récits absurdes? Passons par une étape intermédiaire pour expliquer notre étrange rapport à la vérité. Le jeune écolier, lorsqu'il étudie les fables de La Fontaine, croit-il en leur réalité? La cigale et la fourmi entretiennent-elles réellement dans la nature de telles relations? Bien entendu que non. L'écolier va devoir apprendre à distinguer deux pans du réel, les histoires qu'on nous raconte et la réalité des faits. Même si pour cela, il devra faire deux efforts. Comprendre que ce que dit et lit son enseignant n'est pas forcément la vérité. Et que l'analogie et la métaphore sont parfois des procédés plus efficaces pour expliquer une situation. Bien entendu, nous n'allons pas tomber dans le panneau. Ces remarques ne sont pas des justifications de certains discours populistes qui font fi de la réalité pour justifier leurs idéologies. Il n'y a pas de réalité alternative, non. La vraie thèse est qu'il y a une réalité, mais que ce que visent les histoires, ce n'est ni la vérité, ni la réalité. C'est autre chose. Croire en un mythe remplit une fonction sociale. Non pas dans le sens où le mythe prescrit des attitudes morales qu'il s'agirait de copier. Vouloir être comme ses héros et manipuler à tout va, parfois jusqu'à la nausée, des phrases toutes faites du type « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Vous voyez ce que je veux dire? Si les grands films de super-héros n'étaient remplis que de bons sentiments, ils seraient si fades que tout le monde les oublierait rapidement. Non, c'est plus subtil et plus riche que cela. Les mythes produisent le sentiment de partager avec nos contemporains un discours commun, un sentiment de connivence et de solidarité, de culture commune. C'est le rôle principal que respectent ces histoires que l'on adore, alors même qu'elles sont absurdes dans leur développement. Road to love it. Car le mythe n'est pas un discours neutre et nu. Même si ses personnages principaux sont extravagants, ils se construisent dans un univers qui, lui, est tout à fait crédible, avec des objets et des situations symboliques qui rappellent notre réalité. Les super-héros évoluent dans une réalité hors de notre temps, et pourtant, au milieu d'un environnement qui est le nôtre, fait de buildings américains qui sont dans notre imaginaire et de relations humaines qui nous rappellent nos codes sociaux. Nous nous y retrouvons et c'est un savoir partagé qui structure notre pensée. C'est la théorie dite structurale, davantage défendue par le spécialiste en culture grecque Jean-Pierre Vernant. L'analyse structurale explique qu'au final, le mythe lui-même a moins d'importance dans son récit qu'à travers ses liens avec les codes de notre culture. Cela n'a pas de sens de dire que le mythe est vraisemblable ou pas, comme s'il devait coller à la réalité pour être valide. Le mythe est d'abord ce qui active en nous des références qui vont structurer notre manière de penser le monde. En quelque sorte, c'est le collectif qui nous parle à travers ces histoires. Elles nous divertissent, elles produisent du merveilleux face à un monde terne et angoissant, mais elles organisent aussi une autre forme de savoir, parallèle à celui offert par la science et l'éducation académique. Les super-héros offrent un monde à la fois semblable au nôtre et différent, très détaillé, où se développent nos fantasmes et nos espoirs, nos contradictions et nos aspirations morales. Dit autrement, le monde des super-héros n'a pas besoin de vérification rationnelle. Nous le savons tous intuitivement, pas besoin de se poser la question, car il n'est rien d'autre qu'un monde parallèle où se jouent les enjeux de notre réalité, avec des variations et des perspectives possibles à la recherche du meilleur des mondes possibles. La mythologie est plus que jamais présente auprès de nous. Reach out, touch faith. Je voudrais en conclusion vous partager une référence sur les réseaux que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Pour les autres, je voudrais vous signaler ma découverte du podcast Esprit Critique. Je suis un peu en retard, hein, car cela fait 4 ans que cela existe sur YouTube et Facebook. Mais c'est à mon sens un des meilleurs programmes. Les deux compères analysent la rhétorique utilisée par les responsables politiques de tous bords pour en décomposer les mécanismes et montrer les ressorts de certaines manipulations. Je vous conseille d'aller les découvrir. Cette chronique, elle, sera rediffusée dimanche à 17h et reste disponible sur le site de Radio Pays des Roses sous forme de podcast. N'hésitez pas à réagir, à m'envoyer des questions ou des commentaires pour prolonger ce petit moment de philosophie. Et en attendant, je remercie RPHU des Radio Pays des Roses et plus particulièrement Solène à la technique et au montage. Et je laisse le dernier mot à Jacques Higelin. Pas sur tout.